à tous, vous écoutez les Pipelettes.
Au micro, Miyako, Louise et moi Laure. Aujourd'hui, nous allons vous raconter trois faits méconnus qui se sont déroulés un 30 mai.
Miyako nous dira tout sur le peintre Rubens, décédé le 30 mai 1640. Laure nous parlera de Jeanne d'Arc et de son martyr le 30 mai 1431. Et je finirai par vous présenter deux événements importants concernant la course vers l'espace.
Très beau programme en perspective. Les Pipelettes, c'est tout de suite.
Attendez les filles, il faut annoncer à nos auditeurs et auditrices que c'est leur dernier rendez-vous avec les Pipelettes.
En tout cas pour cette année, car nous serons de retour dès octobre prochain.
C'est ça. Allez, on y va. Les Pipelettes, c'est tout de suite. Et comme d'habitude, commençons avec Miyako, qui va nous en dire plus sur ce célèbre peintre baroque, Pierre-Paul Rubens.
Pierre-Paul Rubens est considéré comme l'un des artistes les plus importants de l'histoire de l'art. Il est né à Siegen, en Allemagne, en 1577. Rubens a passé une grande partie de sa vie dans les Flandres, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique. Son talent artistique s'est manifesté dès son plus jeune âge. Il a été remarqué par des puissants mécènes qui ont soutenu sa carrière. Ce peintre était connu pour son style unique et sa maîtrise du clair-obscur. C'est une technique qui consiste à juxtaposer des zones lumineuses et sombres pour créer un effet dramatique. Il excellait dans de nombreux genres, allant de la peinture religieuse au portrait, en passant par les scènes mythologiques et historiques. Ses œuvres les plus connues sont « Le massacre des innocents »,« L'enlèvement des filles de Lucie » et « La descente de croix ». D'ailleurs, ce tableau est un exemple parfait du talent de Rubens pour capturer l'émotion et le mouvement.
Il me semble qu'il exerçait d'autres métiers.
Oui, Louise. Outre ses talents de peintre, Rubens était également un diplomate et un homme cultivé. Il a même été anobli par les rois et les princes de son époque. Pierre-Paul Rubens décédera le 30 mai 1640 à Anvers, en Belgique. Il laisse derrière lui un important héritage artistique du style baroque. Et en 1640, Antoine Bosset composait « Objet dans les charmes » qu'on écoute tout de suite.
Passons alors qui va nous révéler les secrets de Jeanne d'Arc.
Merci Louise. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est brûlée vive sur la place du Vieux Marché de Rouen, après un procès inique. elle est victime du sort des Anglais, qui voulaient à tout prix la convaincre d'hérésie et de sorcellerie pour abaisser ainsi le roi Charles VII qu'elle avait diligemment servi. Son procès, dont on a conservé et publié les minutes, témoigne d'une personnalité d'exception, avec un esprit acéré et une conscience pure. Et c'est ce dont je vais aujourd'hui vous faire part, les derniers jours de Jeanne d'Arc.
Jeanne, Seigneur, et ton œuvre splendide, un cœur de feu et d'amour de guerrier, tu le donnant à la Vierge timide, que tu voulais couronner de laurier.
3 mai 1430. Capturée au siège de Compiègne, Jeanne d'Arc est vendue par les Bourguignons aux Anglais, lesquels n'ont qu'une hâte, la faire condamner par un tribunal ecclésiastique afin de déconsidérer le roi Charles VII et rendre le moral à leurs troupes. 23 décembre, veille de Noël 1430. Après un passage à la forteresse du Crotoy, au bord de la Manche, Jeanne arrive à Rouen. Elle est enfermée au château du Bouvreuil, la forteresse de la ville qui accueille ordinairement des prisonniers hommes. Pour l'occasion, une tour lui est réservée. Elle est placée sous la garde du gouverneur de la ville, Richard de Beauchamp, comte de Warwick. Pas moins de 4 ou 5 rustres veillent sur elle nuit et jour. Les gardes, superstitieux, n'osent l'approcher, rebutés à l'idée de toucher une prétendue sorcière. 9 février 1431, le procès s'ouvre, avec les 2 juges et quelques dizaines d'assesseurs. Il est fréquemment suspendu, et à plusieurs reprises, le très puissant cardinal de Winchester vient remplacer Cochon à la tête du tribunal. Ces ecclésiastiques admettent difficilement que Dieu ait pu s'adresser par-dessus leur tête à une fille du peuple. Ils dépêchent des enquêteurs à Domrémy, mais les témoignages des habitants sont si favorables à l'accusé qu'ils doivent détruire leur rapport. Ils reprochent à Jeanne d'avoir revêtu des habits d'homme, d'avoir essayé de se suicider à Beaurevoir, lorsqu'il s'agissait en fait d'une tentative d'évasion, et bien sûr, d'avoir eu de fausses visions. Toutes ces accusations, évidemment réversibles, pèsent lourdement lors du procès, à cause des accusateurs qui sont trop importants pour être contredits. Malgré plusieurs tentatives, l'évêque de Cochon précipite la procédure, incapable de faire fléchir la jeune fille et pressé d'en finir par le cardinal de Winchester qui se dispose à quitter Rouen. Il soumet à Jeanne un réquisitoire de 12 articles, qu'elle recuse en bloc. Il décide alors de lui faire peur. 24 mai 1431 au soir. Jeanne est traînée au cimetière de l'abbatiale de Saint-Ouen, où un bûcher a été préparé. Sur une estrade se tient le cardinal de Winchester. Le bourreau est prêt à l'ouvrage. On la menace de torture et on lui montre les instruments. Puis, l'évêque Cochon lit l'article d'accusation dans lequel il la livre au bras séculier afin qu'elle soit brûlée. Mais il lui fait aussi savoir que, si elle se rétracte et renonce à ses habits d'homme, elle sera confiée à l'Église et échappera à la mort. Jeanne épuisée signe un document dans lequel elle accepte de se soumettre à l'Église et de reprendre ses habits de femme. La sentence de mort est commuée en un emprisonnement à vie. Jeanne d'Arc revient dans sa cellule au grand mécontentement des Anglais qui auraient voulu une exécution rapide. Les soldats menacent même de s'en prendre au juge et à l'évêque. Mais quelques jours plus tard, s'étant fait dérober ses vêtements et craignant à juste titre pour sa vertu, elle reprend des habits d'homme, ce qui lui vaut d'être cette fois-ci condamnée au bûcher comme relapse. 30 mai 1431, vêtue d'une robe soufrée destinée à la faire brûler plus vite et coiffée d'une mitre sur laquelle sont écrits des mots infamants, la jeune fille est conduite sur le lieu de son supplice, où, sordidement, on met fin à ses jours. Après le supplice, le bourreau se voit chargé de jeter les cendres dans la Seine afin d'éviter qu'elles ne deviennent objet de ferveur. En dépit de cette fin tragique qui apparaît dans l'instant comme un échec, la détermination de Jeanne d'Arc, soutenue par sa foi et par sa fougue, a changé le cours de l'histoire. Et cette même année, Guillaume de Machaut composait « Douce dame jolie ».
Seigneurie,
Et pour finir, écoutons Louise.
Laissez-moi l'espace d'un instant évoquer avec vous deux événements majeurs de la conquête spatiale, tous les deux survenus un 30 mai. Le premier, le 30 mai 1975, est la création de l'ESA, la European Space Agency. 10 pays dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne décident alors de joindre leurs efforts pour développer un programme spatial européen. Ils sont très en retard puisque après la Deuxième Guerre mondiale, les plus grands scientifiques sont partis, ou bien en Russie, ou bien aux États-Unis. Les premiers ont lancé Sputnik et Yuri Gagarin dans l'espace dès 1958 et les autres, grâce à la NASA, fondée la même année, sont allés marcher sur la Lune 10 ans plus tard. Seen your face round since I was a kid. You're bringing back those memories of the things that we did. You're hanging round and climbing trees pretending to fly. Do you wanna be a spaceman and live in the sky? God, how many bills to pay and how many kids? And you forgot about the things that we did. The town where we're living has made you a man, and all of your dreams are washed away in the sand. Well, it's alright, it's alright. Who are you and me to say what's wrong and what's right? Do you still feel like me? Well, sit down here and we shall see. We can talk and find common ground. And we can just forget about feeling down. We can just forget about life in this town. L'ESA aussi rêve d'envoyer les hommes tourner autour de la Terre ou jouer au golf sur la Lune. Et comprend bien que seul un programme soutenu par la volonté et les moyens de plusieurs pays sera en mesure d'y parvenir. Et pourtant, si l'ESA a de beaux succès à son actif et a envoyé de nombreux satellites de communication, d'observation ou de géolocalisation en orbite avec Ariane, elle n'a jamais su propulser un homme dans l'espace. Les astronautes européens, les spationautes donc, décollent grâce aux fusées de l'agence russe ou américaine. C'est dire la prouesse incroyable qui a eu lieu 45 ans après la création de l'ESS, le 30 mai 2020, lorsque la fusée Crew Dragon décolle vers la station internationale avec deux astronautes à bord. C'est bien une fusée privée développée par SpaceX, fondée en 2002 par le fantasque Elon Musk, célèbre patron de Tesla ou Twitter, qui s'invite à la table des grands. Il a réussi en quelques années à faire ce que 10 nations n'ont pas su faire ensemble en 45 ans. Avec ses lanceurs, il ouvre la voie pour l'exploitation lointaine, nécessitant des vaisseaux plus lourds et plus puissants, qui emporteront peut-être un jour notre Thomas Pesquet national sur Mars. 3, 2, 1, 0, décollage!
Les filles, il faut y aller.
Eh oui, c'est déjà la fin de notre émission.
Mais ne vous inquiétez pas, car nous serons de retour à la rentrée prochaine pour de nouveaux événements.
En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site www.radiolfb.net, laissez des commentaires, abonnez-vous et téléchargez notre programme.
Nous vous laissons avec Outro Lado par Ona Mafalda et Sofiane Pamar.
Au revoir
et bon été.
Está pasando tus labios ya se han alejado de mí. Siento tu lado más frío. Es el dolor al despertar sin ti. Pasan horas, lloro y horas porque estoy aquí.